Donc, ce qu'on s'est proposé, c'est un temps de jeûne. Maintenant, on va se demander ensemble, selon les Écritures, c'est quoi ça le jeûne? Définition simple, ben, c'est de se priver. C'est de souvent plus manger. En certaines occasions, certains ont même pas bu. Mais règle générale, c'est surtout de se priver de nourriture, puis il y a des différents niveaux au jeûne. Le Seigneur nous a parlé du jeûne parce que dans la Bible, étrangement, le jeûne, ce n'est pas quelque chose de très courant. Beaucoup plus courant dans les religions païennes que dans le judaïsme ou encore une fois dans, peut-être plus dans la révélation biblique, je pourrais dire, parce que le judaïsme a quand même développé beaucoup le jeûne, plus que ce que le Seigneur demandait. Parce qu'il y a une certaine notion ou une compréhension du jeûne peut-être un peu superstitieuse qui croit que le jeûne met plus de puissance, comme si ça joue sur les éléments, ainsi de suite. Donc, le danger, c'est d'avoir une mauvaise compréhension du jeûne. Fait qu'on va essayer d'avoir quelque chose de simple, ça ne sera pas trop long, ce n'est pas une étude si exhaustive. Et s'il y en a d'autres qui veulent juste revoir un petit peu un enseignement sur le jeûne, Pascal Deneau, qu'ils connaissent ici, c'est le pasteur de l'église à Saint-Jérôme, sur un héros dans le net. Il a fait finalement deux messages sur le jeûne. C'est assez intéressant, il faut aller peut-être écouter ça, puis voir. Maintenant, le jeûne. Dans Matthieu au chapitre 6, lorsque le Seigneur nous parle, en nous donnant au fond son interprétation de la loi, ce qu'on devait comprendre de toute l'alliance avec Moïse, il va mentionner certaines choses qui font partie de notre marche avec Dieu, comment on vit avec lui. Il va d'abord parler de l'aumône. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Ce qu'on donne en argent, en temps, ainsi de suite, notre service, c'est un culte, c'est une partie du culte qu'on rend Dieu. Il y a une bonne manière de le faire, puis il y a une mauvaise manière de le faire. Puis le Seigneur expose ici le danger de la mauvaise manière de le faire, qui est d'être remarqué des gens. Et puis dans son enseignement, c'est vraiment intéressant, il va toujours dire devant qui vous êtes en train de le faire. Si vous le faites devant les hommes, vous allez avoir votre récompense. Les hommes vont remarquer ce que vous avez fait. Et ça s'arrête là. Par contre, si vous le faites dans le secret, devant Dieu, sans crainte d'être oublié des hommes, de toute façon, ce n'est pas le but d'être vu des hommes, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, il est en train de nous dire que oui, il y a un point de contact avec Dieu. On peut marcher avec lui. On vit des choses avec lui. Donc, il parle de l'aumône. Après ça, il parle de la prière. Le danger, encore une fois, d'une prière de spectacle. Je veux être remarqué, je veux avoir l'air de quelqu'un de spirituel. Et puis, il y a des gens qui vont étudier et mettre beaucoup de temps à formuler une belle prière en pensant que, je ne dis pas la qualité des mots choisis, ainsi de suite, peut impressionner Dieu. Ça impressionne les gens. Je me rappelle de quelqu'un qui avait vraiment impressionné une fois ma belle-mère. Énormément. Moi, je connaissais le monsieur. Je me dis, il y en a qui ont le don de savoir passer des messages, surtout aux gens qui ne les connaissent pas. Mais, c'est une autre histoire. Après ça, il nous parle du pardon. Ça fait partie de notre marche avec Dieu. Parce qu'on n'est pas sans savoir que la plupart d'entre nous, et ça c'est sans exception, on va apprendre quelquefois à se marcher sur les pieds les uns des autres. Ça s'apprend par le péché. Il y en a que c'est par accident, puis il y en a d'autres qui le font volontairement. Donc, inévitablement, dans la vie, il va falloir apprendre aussi à se pardonner les uns les autres. Il y a une bonne manière de le faire, puis il y a une mauvaise manière de le faire. Et puis, étrangement, le Seigneur dit, « Lorsque vous jeûnez, donc, il n'est pas dit nécessairement dans un texte comme, bon, par hasard, si ça vous arrive de jeûner, là. Il dit plutôt, lorsque vous jeûnez, comme une conclusion que ça fait autant partie de l'aumône, la vie de prière, le pardon, il va y avoir aussi des moments dans notre vie où est-ce qu'on jeûne, où est-ce qu'on va arrêter toute activité, où on va se priver de nourriture. Et ça, c'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 15, on va le lire. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, selon certains, les pharisiens avaient développé une vie de jeûne. Il paraît qu'ils jeûnaient deux fois par semaine. Et à des jours bien précis. Et entre autres, justement, je cite Pascal ici, je pense qu'il fait référence à MacArthur. Je suis en train de parler comme un rabbin qui c'est un autre rabbin qui c'est un autre rabbin, mais bref. Bref, ça pour dire que, selon MacArthur, il croit que c'était les deux journées du marché public que les pharisiens avaient choisi de jeûner pour montrer à ceux qui sont partis au marché acheter de la nourriture, puis on en mange en même temps, puis tu sais, ça sent bon, puis ainsi de suite, là. Eux se présentaient dans les marchés à certaines places, le visage tout défait, avec une face de carême, comme on dit, c'est vraiment le cas de le dire, et montrant aux hommes qu'ils jeûnent pour faire sentir les autres coupables. Puis j'ai déjà vu cette histoire-là arriver pour vrai. C'était à l'époque où, à Cartierville, on faisait toutes les portes pour le ministère des enfants. Vous vous rappelez ceux qui étaient là à l'époque, là, ce qu'on appelait le Bus Ministry, le ministère de la rue. Et j'avais été invité par une famille musulmane qui avait immigré et puis qui comptait beaucoup sur ce que les capitaines des routes faisaient. Puis on était vraiment là pour aider les gens qui arrivent dans un pays qui ne connaissent pas les us et coutumes. Quand il y a un problème, ils ont peur des autorités parce qu'ils viennent souvent de pays où les autorités étaient menaçantes plus que rassurantes. Bref, il y avait extrêmement confiance dans ce qu'on appelait les capitaines de route. Et puis, entre autres, j'avais été invité par un des capitaines en disant, écoute, il y a une famille qui nous invite, est musulmane, et puis il nous invite à manger. OK. Puis à l'époque, je n'étais pas trop au courant de l'histoire du Ramadan. Bref, j'arrive là, et puis le monsieur, vraiment content qu'on vienne manger chez lui, on mange, et ça cogne à la porte. Et là, il y a un autre monsieur plus gros que lui qui rentre, et qui vient s'asseoir, on mange ici, il vient s'asseoir là, dans le fauteuil, dans le coin, tu sais. L'autre, il n'a pas dit, écoute, tu ne vois pas que je suis avec du monde. Un peu comme intimidé, ça fait que le monsieur en question lui offre, est-ce que tu veux manger avec nous? Et qu'est-ce qu'il lui répond? Non, je jeûne, moi. Ça va? Il a vraiment une grosse tête à claque, là. Non, un épais comme on les aime, tu vois? Puis je me disais, Calvin, c'est pas si loin que ça. C'est vraiment pas une race qui est en voie de disparition, tu sais. Puis c'est pas nécessairement musulman. Tu as chez les chrétiens la même affaire, puis les athées la même affaire. La stupidité, c'est généreux. Elle se multiplie d'une manière incroyable. Bref, je ne vais pas trop y penser, ça va gâcher ma journée. Non, ben j'en ai vu un autre, c'était des chrétiens cette fois-là. J'étais tellement déçu, je me disais, on avait été invité par une dame qui venait toujours de se convertir, avec mon ami Philippe Jorin. C'est une dame qui avait un beau restaurant. Et souvent en France, tu sais, c'est fermé le jour. Hein? Ça fait que la dame qui est tout jeune chrétienne, vraiment contente, elle nous invite. Puis elle dit à Philippe aussi, tu peux inviter certains de tes amis. Donc il m'invite moi, je suis bien content. Et il invite deux autres personnes qui étaient dans la région en visite. Fait qu'il nous dit, écoutez les gars, cette dame-là est vraiment contente, elle nous invite à manger. Fait que, tu sais, ah oui, c'est vraiment, tu sais, c'est un moment de joie, là. Fait qu'on arrive, écoute, vraiment un beau restaurant, on est tout seul, c'est elle-même qui nous sert, elle a fait la nourriture, elle a une cave à vin, elle a fait un déliré, Claude Ciccone. Je dis, bref, tu comprends, t'as tout, là. Fait que, on s'installe, elle nous met toute, tu sais, la table, tu sais. Et puis là, les mains arrivent. Fait que mon ami Philippe, ben, il rend grâce à Dieu, vraiment avec joie, tu sais, c'est sûr. Et là, mes deux concombres, ici à côté, ils disent amen à prière après, puis ils disent, ben là, on passe les plats, puis ils disent non, nous jeûnons. Écoute, t'avais le goût de donner des claques. Vraiment, il y en a qui se perdent des fois. On fait du gaspillage de claques. Ils ne sont pas distribués aux bonnes places, je vous jure. Puis là, je me disais, mais quels deux épais qui viennent au restaurant manger avec nous autres, parce que la femme nous aurait, puis non, ils vont dire en pleine face, je jeûne. Quand tu aurais pu dire, j'ai à diarrhée, je peux pas être là. Tu comprends? Je sais pas, moi, faire des épais. Vraiment, tu sais, mais des gens qui veulent montrer. Ils veulent montrer qu'ils jeûnent. Et j'ai l'impression que ça doit, irriter le Seigneur sérieusement. Bref, il dit, quand vous jeûnez, faites pas comme les acteurs, parce que l'hypocrite ici, c'est des acteurs, des comédiens, faites pas comme les comédiens qui vont se planter finalement devant tout le monde, qui se mettent quasiment de la poussière. Parce que tu sais, dans le jeûne puis l'humiliation devant Dieu, il y avait souvent le sacre et la cendre. Tu sais, tu mettais un sac de patates et puis la cendre, et puis là, tu t'arrivais vraiment pour montrer comment tu étais brisé. Et ces gars-là, ils sortaient du cinéma à toi 2 jours, tu sais, ces 2 jours-là de jeûne. Et le Seigneur, finalement, dit, leur récompense, ils l'ont. Tout le monde les applaudit après. Bravo, bien, ils jeûnent, ils super, tu comprends? Puis ils ont intimidé tout le monde, puis ils ont fait sentir tout le monde coupable. Le Seigneur dit, toi, plutôt quand tu jeûnes, donne l'impression que tu vas dans une fête, que personne ne le sache. En passant, ce n'est pas d'en mettre trop, parce que les gens vont commencer à avoir une nouvelle coutume. Ah! T'as des fleurs dans les cheveux, tu jeûnes? Fait, c'est pas aller de l'autre extrême non plus pour montrer aux gens que tu jeûnes. C'est simplement, arrange-toi pour pas que ça soit su. Et puis c'est sûr, quand tu fais tes premiers jeûnes, je me rappelle, avec Yves, tu te rappelles? J'étais revenu de en tout cas des églises de France, d'Europe, et où est-ce que j'avais connu le Seigneur, puis ça avait pas été un bon voyage. J'avais été là avec Jean, justement, en 80, puis ça avait été dur. Parce que l'Église passait des temps vraiment difficiles, puis pour moi, c'était un idéal, ces églises-là. Fait que je reviens chez nous, complètement désillusionné. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je poursuis ou j'arrête? Parce que là, on avait un petit groupe, et puis, est-ce que je continue à m'investir là-dedans, que ça va finir mal comme ça a l'air à toujours finir mal? Et puis, je ne savais vraiment pas quoi faire, fait que je me suis dit, bien, écoute, j'ai rien à faire pour l'instant. J'ai encore un petit peu d'argent, j'ai pas besoin d'aller travailler tout de suite. Je m'assois chez nous, je jeûne jusqu'à temps que Dieu me parle. Mais avec une motivation que, à quoi ça me sert de continuer si Dieu ne me parle pas? C'est même pas que je vais avoir une réponse pour que ça marche. Je vais avoir une définition, je veux qu'il me parle. Là, ce que je comprenais, moi, du leadership, ce que je comprenais de la structure d'Église, ben ça a l'air que là, il y a une moyenne chicane dans les églises là-bas, puis personne ne s'entend là-dessus. Puis c'était finalement mes modèles, ces gens-là. C'était mes héros. Je jurais par eux autres. C'est quasiment une idolâtrie que j'avais envers eux autres. Et un jour, Dieu brise ça pour prendre la gloire seule. Il ne la partage pas. Fait que là, je me suis dit, je vais m'asseoir chez moi, je vais commencer un jeûne jusqu'à temps que Dieu me parle. Et quand vous voulez commencer un jeûne, vous êtes toujours invité à manger. Et celui qui m'appelle pour m'inviter à manger, c'est Yves. « Hey, tu viens-tu manger à la maison? » Non. Là, dans ma tête, il ne fallait pas qu'il le sache, parce que s'il sait, ça annule. Tu comprends? Fait que là, c'était... Fait qu'il insiste un peu. Ben, il dit « OK, pas pour dîner, ben peut-être pour souper? » Non, pas vraiment non plus. Quand tu es célibataire, puis un autre célibataire t'appelle, tu n'as pas d'excuse de dire « Ma femme est occupée. » Ou « Ma femme est fatiguée, je pense qu'on va y aller. » Tu comprends? Tu es tout seul, Fait qu'il dit, puis en célibataire, on s'ingère un peu plus dans la vie des uns des autres, pas vrai? Mais pourquoi tu veux pas manger chez nous? Pourquoi? Hein? Là, je suis obligé de dire, tu comprends? Je sais pas, je reprendrai mon jeûne dans 2 jours. Bon. Parce que jeûne, ah! Et tu peux pas faire ça n'importe comment. Fait qu'il venait de lire un petit livret, hein, là-dessus, tu te rappelles? Il dit, attends, on va te montrer comment on fait pour jeûner. Fait qu'il vient me rejoindre, puis là, on se prépare. Puis c'est comme ça qu'on avait fait ce fameux jeûne qui, pour nous autres, à la Bible parle, qui ne s'appelait pas encore la Bible parle à l'époque, a été un tournant majeur. Où on arrêtait de vraiment s'investir, parce qu'on ne s'investissait pas à peu près là-dedans, ou bien finalement, on avait une réponse de Dieu pour voir comment on était pour continuer, mais ce n'était pas pour être pareil. On était devant un mur, là. Et la motivation, c'est à moins que Dieu nous parle, qu'il renouvelle notre intelligence, qu'il nous redonne une définition claire, on ne fera pas du pareil au même. On n'a plus le jus. En tout cas, moi personnellement, comme personnalité, je n'ai pas choisi ce que je suis, là, tu sais. Il y a certaines personnes que je vous regarde aller et je suis en admiration devant vous. Ça n'a pas de l'air, là, mais... Parce qu'il y a des gens qui ont une volonté absolument incroyable. Ils sont capables de faire les choses, que ce soit le fun ou pas le fun, c'est tellement secondaire pour eux autres. Ils sont finalement très réguliers, très fidèles, très capables. Moi, je n'ai pas hérité de ça. Moi, pour marcher dans la vie, pour faire n'importe quoi, il faut que je sois saisi par une vision. Honnêtement, là, c'est mon carburant. Si je ne suis pas saisi par quelque chose, je n'ai pas naturellement le goût de faire quoi que ce soit dans la vie. Alors, quand ma motivation de marcher même avec Dieu est touchée, ça touche toute ma personnalité. Mon étude, ma vie de prière, mon goût d'aller de l'avant, mon goût de me lever le matin, mon goût de me coucher le soir, tout va être touché dans ma vie. Donc, je ne peux pas me permettre de ne pas être saisi par une vision claire. Et quand Dieu a renouvelé notre vision, il nous a embarqué dans quelque chose de complètement nouveau. Et puis, il nous avait fait des promesses. Et c'est dans ce jeûne, dans cette période du jeûne, entre autres, qu'il nous avait donné cette fameuse vision. Je ne sais pas si Marianne, tu t'en rappelles, que finalement, le Seigneur nous avait montré qu'on était pour aller en Haïti. Moi, je ne connaissais même pas d'Haïtien à l'époque. Puis c'était Mina, la première personne qui nous avait présenté, je te rappelle. Et puis là, elle nous parle de son pays, puis son mari aussi nous parle de son pays, puis comment, oui, etc. Puis le Seigneur nous avait donné des promesses en disant, je vais vous amener là-bas. Vous allez annoncer la parole. Vous allez participer à la vie là-bas. Et puis, le signe que c'est lui qui nous amènerait, c'est qu'on irait en bateau. Et puis, c'est là que, finalement, il s'est passé toute l'histoire du bateau. C'est une autre histoire. Le jeûne. C'est facile de jeûner lorsque vous êtes frappé dans votre cœur où il n'y a plus de motivation. Parce que quand on est frappé et qu'on perd le sens de ce qu'on fait, on est inévitablement classé comme étant... Lorsque le sens est frappé dans votre vie, là, tu sais, le sens, vous l'avez perdu, vous devenez inévitablement quoi? Un insensé. Tu perds le sens. Et quand le sens t'est enlevé, tu n'as plus le goût de manger. Souvent, c'est facile de jeûner quand le sens t'est enlevé. Il y a comme un découragement. Pourquoi on va jeûner, là? Est-ce qu'il y a une crise? Pas du tout. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Notre mouvement va bien. On part des nouvelles églises, il y a des nouvelles personnes qui viennent au Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'en apparence, les choses vont vraiment bien qu'on devrait attendre que la crise commence à se rendre manifeste. La qualité d'une vie chrétienne, de manière externe, c'est sûr qu'elle se mesure un peu aux fruits qu'on produit. Il faut faire attention parce qu'on a plein de définitions de ce que c'est porter du fruit. Pour certains, c'est des activités. Pour d'autres, c'est des attitudes de cœur. Bref, il y a toutes sortes de manières de manifester ce qu'on pense être du fruit. Mais honnêtement, le fruit le plus important ou la manière de mesurer, je pense, le plus sûr, selon les Écritures, c'est quel genre de relation j'ai présentement avec celui que Dieu m'a donné. C'est quoi mon rapport avec le Seigneur Jésus-Christ que le Saint-Esprit va glorifier, révéler? Parce que le Saint-Esprit vient pour glorifier le Seigneur Jésus. Et plus le Seigneur Jésus est glorifié dans nos vies, manifesté, connu, alors plus vous connaissez Dieu comme il veut être connu. Le Père veut être connu que par Jésus-Christ. Et si cette personne de Jésus-Christ qui est le point de contact, le lieu de la rencontre, l'intermédiaire entre nous et Dieu, est flou, alors inévitablement, votre vision de marcher avec Dieu est aussi floue. Et si, à la limite, vous n'avez quasiment pas de compréhension, de connaissance de la personne de Jésus-Christ, si dans vos conversations, vous ne parlez pas de lui comme une personne qui est avec vous, des fois, il faut s'arrêter. Parce que peut-être la motivation de se rassembler, de faire des choses, on ne s'est peut-être pas rendu compte, mais est plus le Seigneur Jésus. On peut aimer de se retrouver ensemble parce qu'on est des amis. On fait toutes sortes d'activités. Écoutez, on vit des affaires absolument incroyables. On réouvre encore cette année, on repart en Haïti. Il y en a qui ont une équipe qui va peut-être partir au mois de novembre, un autre qui repart encore en janvier jusqu'en mars. Dans ces voyages-là, on vit des affaires absolument incroyables. On en parle le restant de l'année. Il y en a qui partent en Afrique. On s'en va rejoindre Pasteur Kudjo. Pasteur Kudjo nous fait visiter les œuvres qui sont en train de se produire là-bas. Il se passe des affaires absolument incroyables. On vit une vie de fou.
On vit de belles choses, on veut aller plus loin.
On veut aller plus loin, mais pas nécessairement, c'est vrai, mais pas nécessairement dans le panneau de plus d'activités. Moi, en ce moment, ma grande prière, c'est Seigneur, au secours. Ralentis, tu vois, je suis soufflé, je suis en arrière de toi, là, s'il vous plaît. Donc, mais ça se mesure en disant, on va aller plus loin, mais comment on va plus loin? Pas dans les activités d'abord. Puis pas non plus dans plus de je sais pas quoi, mais dans « OK, Seigneur, on veut s'arrêter et connaître. Qu'est-ce que tu veux nous faire voir? Qu'est-ce que tu nous, Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Où on est rendu en ce moment? Là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Parce que moins il y en a à l'intérieur, et ça c'est vrai, écoutez, c'était une loi, je ne sais pas comment elle s'appelle, mettez-y un nom, c'est pas la loi de Murphy, Murphy lui c'est toujours des catastrophes, mais il y a un principe que moins il y en a en dedans, plus on en met dehors. Tu sais, il y a des gars qui tombent dans le panneau de dire « Wow, cette fille-là, c'est elle. » Tu dis « Comment tu sais? Regarde-moi l'apparence. » Tu dis « Oui. Watch bien le désastre. » Parce que tu auras des moyens de surprise, puis les filles, c'est la même chose. « Oh, il est tellement gentil. Regarde. » Il y en a trop à l'extérieur. Je vous le dis, méfiez-vous quand c'est trop beau. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Parce que moins il y en a en dedans, plus tu t'en mets dehors. Celui qui avait tout le royaume de Dieu et la richesse de Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu faisais pas attention, tu pouvais passer à côté de lui et tu n'avais pas remarqué qu'il était là. Mais le pharisien qui avait rien en dedans, tout était dehors. Lui, tu ne pouvais pas le manquer. Tu ne pouvais pas manquer le pharisien, je vous le garantis, les gars savaient se faire remarquer. Il était très impressionnant. Jésus de Nazareth, même ses frères, écoute, t'es élevé avec Dieu en personne. Ton frère, c'est Dieu, tu le sais même pas. Ta mère, souvent, en parle. Il n'est pas normal, votre frère. Non, c'est vrai, il n'est pas arrivé comme les autres, tu comprends? Ça a dû être jasé le soir au souper. Raconte-nous encore un moment comment il est venu. Puis Jésus, c'est qui il est, tu comprends? Et là, c'est parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait Gabriel, ouais. Il m'a dit, ce que tu vas porter, c'est chose sainte. Ouais? Regarde son frère, tu comprends? Ils ont sûrement dû le provoquer une fois en disant, ah ouais, donc, fais donc un miracle ou deux, voir. Et même quand il a commencé son ministère, ses frères ont dit, écoute, c'est un gars qui veut se faire connaître, là, c'est le temps, descend dans les fêtes. Tous les pharisiens, tous ceux qui veulent se faire remarquer, choisissent des événements comme cette fête. Donc, fais comme les pharisiens, gars, ça marche! Va dans leur école, ils savent comment se vendre, ces gars-là. Regarde leur projet, ça marche. Ils sont rien que 5% de la population, mais ils emmènent large comme s'ils étaient toute la population. Jésus, t'es donc pas marketing! Jésus avait tout en lui, alors il n'y avait pas besoin de mettre à l'extérieur de lui. Il était tellement ordinaire, tellement normal. Moins c'est normal, plus quelqu'un vous crie, j'en ai pas. Je te fais à craindre. C'est un acteur. Le gars qui a joué le rôle de Jésus de Nazareth, là, tu sais, dans les années 70, là. Ouais, tu sais. Le gars, il n'arrête pas de dire à tout le monde, écoutez, arrêtez de mettre ma photo dans vos églises. Je ne suis pas votre Jésus. Je fume, je bois, puis j'ai des problèmes. Tu as entendu? Mais nous, ce gars-là, il a l'air plus du Jésus qu'on veut que je suis sûr que si on avait été là et qu'on aurait rencontré le vrai Jésus, toute la gang ici, on aurait été un petit peu déçus. Non, je ne t'imaginais pas de même. Parce qu'on projette des idéaux et puis on se projette toujours dans l'irréel parce que la vraie vie, on ne l'aime pas. On la fuit. Le jeûne, c'est un temps pour dire, OK, j'arrête. Et là, je vais m'humilier devant Dieu. C'est comme si Dieu dit, si tu veux t'humilier, il m'a donné un moyen. Et c'est humiliant. Ce n'est pas agréable. Arrête tes activités, ralentis-les au moins, assis-toi, arrête de manger, coupe certaines affaires si tu dois manger, et là, dis-moi le vide de ton cœur. Parle-moi de ce qui te fait mal. Dis-moi ce qui est vraiment dans ta tête que tu essaies de geler, d'enlever, de compenser, de nier. Viens t'asseoir, puis viens me parler. Arrête tout, là. Tu l'as plus, là. T'as plus de jus. Je te soutiens pas en ce moment, là-dedans. C'est comme si Dieu, t'as pas remarqué que je te porte moins, là? Arrête. Et là, dans ces moments-là, le Seigneur nous restaure. Je sais pas comment il fait, je sais pas, c'est secondaire, il le fait. Mais, pour prendre l'exemple d'un explication biblique du jeûne, c'est Ésaïe 58, je vais juste le lire. Ésaïe 58, nous rappelle l'attitude. Parce que Dieu regarde surtout au cœur. Encore une fois, ce n'est pas un spectacle qu'on met devant Dieu. Il ne donne rien. Ésaïe 58, lorsqu'on parle du vrai jeûne, il dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. » Donc, ça commence un peu plate. T'sais. C'est comme on va parler de nos problèmes, de nos fautes. « À la maison de Jacob, c'est péché. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y prends point garde. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme le jonc, se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici !» Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Et si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc vraiment une définition du jeûne ici absolument incroyable. Sans qu'on ait tout le temps de le voir ensemble, vous avez remarqué, d'abord, c'est une attitude de cœur de dire, OK, que mes iniquités soient mises en lumière. Un peu comme Pasteur Réal le rappelait plus tôt, j'ai une raison qui résonne. Maintenant, qu'est-ce qui a été mis dedans pour qu'elle résonne ce que je veux bien qu'elle résonne? Est-ce que la parole de Dieu entre dans ma raison pour résonner la parole de Dieu? Est-ce qu'on marche selon le conseil de Dieu dans nos voies en ce moment? Donc, c'est comme un temps d'arrêt pour dire, OK, Seigneur, mets en lumière ma vie. Mets surtout en lumière ce qui m'échappe, mais qui me contrôle beaucoup plus que je peux penser. Deuxièmement, il parle après ça de voir comment on a un rapport avec l'autre. Est-ce que j'ai des rancœurs, des méchancetés envers des gens? Est-ce que j'ai un esprit de vengeance que je réclame que cette personne soit détruite parce qu'elle me fait du tort? Peut-être que c'est le temps de dire au Seigneur, écoute, tu m'as fait de grâce. Tu as relâché mes propres dettes envers toi. Visite-moi pour que cette même grâce que tu m'as accordée, elle puisse aussi couler par moi vers les autres. C'est dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Après ça, il nous parle aussi de trouver ce sens, le sens que Dieu met dans nos vies, qui est toujours la gloire de Dieu. Mais pour nous, c'est un mot assez flou. Tu peux tout mettre là-dedans, la gloire de Dieu. Mais que Dieu lui-même nous dise, qu'est-ce qu'il attend de nous? Puis pas juste comme individu. De trouver finalement, par la grâce de Dieu, qui nous sommes collectivement, en tant qu'Église locale, et aussi en tant que peuple de Dieu dans ce monde, au-delà de nos églises locales. Trop souvent, on pense notre vie chrétienne un peu comme du genre de développement personnel. Le Seigneur dit, non, tu n'es pas juste dans du développement personnel. Ton développement personnel, il va se faire à la résurrection. Pour l'instant, tu vas te développer en fonction d'un peuple. Tu appartiens à un peuple. D'abord, on appartient au Seigneur, on est racheté par lui à un prix extrêmement élevé qu'on ne peut même pas s'imaginer à quel point ça a coûté cher à Dieu de nous racheter. Mais deux, c'est pour nous baptiser en lui et il est la tête de son peuple. Est-ce que je considère tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ comme étant des frères ou est-ce que c'est juste ma gang qui est vraiment le peuple du Seigneur? Donc, il nous parle vraiment de dire, attends, là, tu vas relâcher finalement peut-être ta méchanceté. Arrête. Pour qu'on soit vraiment saisi par lui, pour qu'il puisse renouveler finalement notre intelligence. Notre intelligence prend des éléments par lesquels on va raisonner les choses. On va apprécier ou non certaines choses. On va aimer ou détester les choses en fonction de ce que Dieu va nous montrer. On est tous en ce moment en train d'agir en fonction de ce qui a été mis dans la boîte. Est-ce que je suis sûr que tout ce qui est là-dedans est vraiment de Dieu? Non. Donc, c'est un moment où on peut arrêter devant Dieu pour dire, écoute, on veut s'humilier parce qu'on veut comprendre. Puis, pour finir, l'exemple pratique maintenant, si vous voulez lire un livre qui peut vous aider durant le temps de jeûne, lisez le livre de Daniel. Daniel a souvent utilisé le jeûne dans sa vie, plus que les autres. Daniel arrive d'abord à Babylone, parce qu'il fait partie du peuple qui a péché contre Dieu et qui est déporté. Est-ce que Daniel, personnellement, a péché pour être déporté? Je ne crois pas. Je pense que Daniel, c'est vraiment quelqu'un qui marchait avec Dieu, mais la personne qui marche avec Dieu n'est pas sans le peuple de Dieu. Alors, il est finalement déporté. Et puis, vous connaissez son histoire. Le premier, au fond, jeûne qui nous parle, la première arrêt qu'il va faire, c'est lorsque le roi les a mis à part. Ils sont choisis parmi l'élite des peuples conquis. Et là, il va manger les mets du roi. Et lui, il ne veut pas manger la viande, ni boire ce vin. Intéressant. Est-ce que être végétarien, c'est être plus spirituel? Non. Mais ces viandes sont sacrifiées à des idoles. Et à cause de l'idolâtrie d'Israël, ils sont déportés. Donc, on ne mangera pas une viande sacrifiée aux idoles. C'est à cause de ça qu'on est ici. Et il va faire une entente avec le monsieur qui est le cuisinier du roi, là, tu sais, qui veut avoir du monde beau et rond. Puis l'autre, il dit, non, regarde, si on mange, je te dis, on va avoir le même, on va être plus beau encore. Et comme de fait, Dieu bénit et ils se mettent sur un genre de jeûne de viande et de vin, de mets délicats, pour se limiter à des légumes. Est-ce que plus tard, il a mangé finalement de la viande? Il est toujours resté sous ce régime-là? Pas du tout. Je pense que quand il est devenu prospère, parce que Dieu l'a béni, le gars est devenu tellement influent dans l'Empire, il devait avoir son palais à lui quasiment. Il devait avoir ses troupeaux. Il devait avoir sa propre ferme avec ses employés. Et il y avait sa nourriture qui était mise à part, qui n'était pas sacrifiée avec les idoles. Donc, il s'est remis à manger finalement de l'agneau, du bœuf, du chameau, je ne sais pas ce qu'il mangeait, mais bref, il mangeait des mets succulents. Et un jour, il fait des jeûnes pour que Dieu lui explique ce qu'il est en train de lui montrer. C'est tellement intense ce que Dieu lui montre. Il a beau le voir, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que Dieu lui montre. Donc, qu'est-ce que ça me donne de voir ce que Dieu me montre si je ne comprends pas ce que Dieu me montre? Est-ce que vous avez déjà lu la parole et lu des passages qui vous impressionnent, mais que vous ne comprenez pas? Ça vous est jamais arrivé si vous n'avez jamais lu la Bible. Donc, ça arrive à tout le monde qu'un moment donné, tu es en train de lire quelque chose en disant « ça m'échappe, je ne comprends pas ». Et c'est souvent, vous essayez avec votre intelligence, et pourtant la Bible dit « ne te repose pas sur ta propre sagesse ». Tu dis « mais quoi, tu veux que je me repose, moi, pour réfléchir, tu comprends ?» Le Seigneur dit « non, si tu réfléchis à partir des choses que tu sais, tu vas sûrement mal les interpréter parce que tu vas les réfléchir en fonction de ce que tu crois. De repos. » Là, tu dis « mais sur qui je me repose ?» Le Seigneur dit « repose-toi sur moi. » OK. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment on fait ça? Ah non, c'est une manière poétique, ça, de dire Bon, il veut juste nous mêler, c'est d'être. Non, non, il est en train de dire, regarde, comprends que tout soit abordé, toujours les choses par les choses que tu as comprises. Maintenant, si tu as mal compris quelque chose, tu sois mal jugé la chose. Avez-vous déjà commencé une addition, puis le chiffre d'en haut n'était pas bon? Puis là, vous n'arrivez jamais à la bonne réponse, hein, qui était supposé d'avoir, parce que regardez, à la fin du journal, c'était pas supposé, c'était quoi, c'était, c'est qu'il y a un chiffre que tu avais mal compris, mal vu. La manière de se reposer sur Dieu plutôt que sur notre propre sagesse, c'est souvent d'arriver devant Dieu en disant, j'avoue ne pas comprendre, maintenant, j'arrête et je m'attends que tu m'expliques. Je vais m'humilier devant toi en disant, écoute, je vais arrêter de me reposer sur ce qui fait ma force, ce qui fait ma sécurité, parce qu'il y a des gens qui sont brillants. Il y a des gens au milieu de nous qui sont vraiment intelligents. Ils ont de l'habileté intellectuelle plus que la moyenne. Il y en a d'autres qui ont été moins choyés. Ça leur prend beaucoup plus de temps à comprendre. Mais il y a des gens qui ont vraiment une vitesse, une habileté athlétique à comprendre les choses. C'est impressionnant. Mais si leur prémisse n'est pas bonne, ils comprennent juste vite mal. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Le Seigneur dit, non, repose-toi pas sur toi. Repose-toi pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Le Seigneur peut se révéler à nous. C'est ça notre privilège qu'on a en Jésus-Christ. Imaginez, le Dieu de l'univers, qu'on ne peut pas sonder tellement qu'il est immense. On ne peut même pas comprendre comment il fonctionne. On n'arrête pas de découvrir des choses au point que toutes les nouvelles constatations de l'univers laissent les hommes de science les plus capables de nous dire humblement, nous avons découvert des choses qu'on ne peut pas comprendre en ce moment, on ne peut pas les expliquer. La fameuse énergie noire, la matière noire, et, écoutez, ils ont assez d'honnêteté pour dire, on ne sait pas c'est quoi. Et tout ce qu'on voit, c'est la matière lumineuse. Et c'est à peine 3-4% de tout l'univers. Le reste, là, c'est quelque chose qu'on ne saisit pas. Ce Dieu qui dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, qui a tout créé, qui soutient toutes choses par sa parole, et qui est l'auteur de ces choses, il est avec nous autres, ici, maintenant. Tu dis, attends, es-tu sérieux? Es-tu là vraiment avec nous autres? J'ai dit que j'étais pour être avec vous autres tous les jours, tu me prends du vrai menteur? Non, 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 mais c'est peut-être une manière de parler, tu sais, comme nous autres, on dit bien des choses qu'on ne pense pas pantoute, là. Non, c'est dit, mais contrairement à toi, parce que je ne suis pas un homme, je ne suis pas un menteur. Ce que je dis, c'est ce qui est. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement au milieu de nous, en chacun de nous, pour ceux qui sont nés de nouveau, qui l'ont reçu comme étant leur Seigneur et Sauveur, et au milieu de nous collectivement. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et lui, là, qui a tout créé, il dit, j'aimerais vous instruire. Ah non, mais sinon, je le sais. Non, tu n'as pas besoin de ça. Je pense savoir. Seulement, c'est là que tu dis, Seigneur, dit, ah, c'est fatigant. Vraiment? Mais ça n'en prend pas beaucoup au milieu de nous pour juste dire, OK, on freine. Avant que ça recommence, là, ça tombe à arriver vite, là, on repart dans une autre course. Là. Il reste juste une petite semaine tranquille avant que la folie reparte. On ralentit pour ceux qui veulent. Venez pas si vous vous sentez coupable, ça marche? Par la foi, ne venez pas ceux qui se sentent coupables, s'il vous plaît. Ça ne marchera pas, vous allez gâcher la sauce. OK, il faut y aller, il faut y aller. Non, 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 non. Ceux qui veulent venir, c'est parce qu'ils veulent juste voir ce qui va arriver. On sait tout. C'est juste pour ça. On veut voir ce que Dieu va faire. Arriver le matin, arriver le midi, arriver le soir, arriver quand vous voulez. Restez aussi longtemps ou peu longtemps que vous voulez. Mais il faut juste venir pour dire, on est venu parce que tu nous as appelés à un rendez-vous. Je veux juste voir ce que tu peux faire. J'ai besoin que tu me montres quelque chose. J'ai besoin que tu me reparles de toi, le but de toute cette vie, le but de l'existence, le but de la création, le but de tout ça, c'est lui. Et trop souvent, on a perdu de vue ce but qui est lui, et sans s'en rendre compte, nous sommes devenus le but. Et puis là, on trouve que ça marche moins bien, on ne comprend pas, puis on s'épuise, puis on chicane, puis on pense qu'on se fait avoir, puis on est les uns contre les autres, puis on ne veut pas se faire niaiser. Le Seigneur dit, mais c'est parce que tu t'es niaisé toi-même. Il faut que tu reviennes au but de ta propre existence. Même, savez-vous pourquoi on a été racheté? Tout le monde dit, ah, pour que Jésus m'aime, il ne voulait pas que j'aille en enfer. Oui, c'est l'effet secondaire. Il nous a rachetés pour Dieu son Père. Et je sais que la plupart d'entre nous, ça ne fait pas triper tellement ça, d'être racheté pour quelqu'un d'autre. Mais l'effet secondaire d'avoir été racheté pour Dieu son Père et de devenir le nouvel Adam, de cette nouvelle humanité, qui est portée par sa propre justice, avec laquelle il nous assure toutes les grâces, toute sa bonté, et que personne ne pourra nous enlever parce que c'est plus nous maintenant. Nous étions la raison pourquoi le bras de l'Éternel était trop court pour agir. Nous, nos péchés, notre séparation avec Dieu, c'était nous le problème. Il prend nos problèmes. Il devient le menteur à la croix. Il devient le tueur à la croix. Il devient le pédophile à la croix. Il devient celui qui a porté les fautes de ceux qui ont cru en lui. De tous ceux qui ont mis leur espérance en lui. Du premier au dernier, au milieu de l'histoire de l'humanité, le Père a donné son Fils et il a porté, pour racheter son peuple, toutes ses fautes. Il est mort à la croix pour faire un nouveau commencement. Pas une fin en soi, c'est un nouveau départ. On est racheté et on est ramené à la vie avec Dieu, par Dieu et pour Dieu, pour quelque chose de complètement nouveau. Et si nous, une communauté dite de vivants, au milieu de la communauté des morts, on n'est pas en train finalement de rendre manifeste la vie, mais qu'on fait du pareil au même comme dans le monde où on tombe dans le panneau d'en faire du plus ou du moins de la même affaire, eh bien finalement on trahit le monde. Le Seigneur dit, arrêtez-vous. Est-ce que les gens réalisent qu'il se passe quelque chose chez vous? Est-ce qu'ils ont, quand ils rentrent ici, dit, wow, le Seigneur est vraiment au milieu de vous? 1 Corinthiens chapitre 14. Ou est-ce qu'on est tous en train de parler en langue, chacun pour soi, puis ils rentrent du monde ici en disant, ils sont tous fous. C'est une manière exagérée de peut-être vous dire, si on rentre tous ici pour faire notre culte personnel, ou que pour soi-même qu'on est venu ici, puis pas découvrir la communauté qu'on est, bien, on est en train de parler en langue. Par contre, si on vient ici dans le but d'entendre et de proclamer sa parole, qu'il puisse agir au milieu de nous, alors là, on est un peuple vraiment de prophètes. Le prophète est plus grand que celui qui parle en langue, parce que lui annonce quelque chose de la part de Dieu à son peuple. Console mon peuple. Console Jérusalem. Mais pour avoir ces moments, des fois, il faut arrêter. C'est comme si on arrête. On s'humilie devant Dieu en disant, écoute, je sens que ma vie, je compense en ce moment, peut-être par un manque de vision, que si votre consécration diminue, si vous commencez finalement à avoir des mauvaises habitudes de vie que vous n'aviez pas avant, ou que vous aviez perdu parce que vous étiez saisi par une vision, c'est que vous le voyez moins, vous vous voyez un peu trop, vous perdez la joie de ce salut, mais pour retrouver cette joie qui est à la source de toute consécration, on ne se consacre pas pour que ça arrive. Parce que ça arrive, on se consacre à ce qu'il nous montre. On répond à quelque chose. Fait que des fois, il faut arrêter en disant, écoute, Seigneur, annonce-moi l'allégresse. C'est un peu une vraie repentance. Là, c'est pas la première partie, OK, est plate. Crépien gosé annonce les péchés de mon peuple. OK, ça, c'est la partie plate. Mais la repentance, quand elle a atteint son but, de nous avoir dit nos problèmes, nos fautes, c'est pour dire, et maintenant, voici la bonne nouvelle. Et psaume 51, ça finit comment? En tout cas, ça se dit comment à un moment donné? Annonce-moi l'allégresse. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Le Seigneur va nous annoncer une bonne nouvelle. À toutes les fois que vous l'avez fait individuellement ou qu'on le fait collectivement, on a toujours été gagnant. On a toujours été visité. Vous l'avez sûrement fait de manière individuelle. Je l'ai fait souvent dans ma vie, peut-être à cause du ministère que j'ai, peu importe. Tu as souvent plus le goût de manger. Le problème est trop gros devant toi. Tu es épuisé, tu es vidé. T'es sans réponse, et là, t'es obligé de t'humilier devant Dieu. Et t'es, avec le temps, c'est peut-être la meilleure fin, là, mais avec le temps, t'aimes quasiment ces moments de catastrophe parce qu'ils t'arrêtent. Et là, tu te dis, wow, OK, il va me casser un bras, mais pour m'annoncer une bonne nouvelle après. Et les eaux qui ont pété vont se réjouir. Bon, c'est juste un dur moment d'abord, et puis après... Puis ça peut pas être si violent que ça, des fois, tu sais, ça sauve nos vies. Écoutez, c'est trop fascinant. Le Dieu de tout l'univers est au milieu de nous, dans la personne de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, dans les uns et dans les autres. Et il nous aime et il va nous montrer des choses. Pour ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, restez chez vous, il n'y a pas de problème. Puis je vous dis pas ça pour vous sentir coupable, restez chez vous. Nous, on jeûne, nous. Non. Restez chez vous, mangez du poulet frit. Et puis, il n'y a pas de problème. Puis, il y en a d'autres, venez manger ici. Bien, peut-être pas ici, là, s'il y en a qui jeûnent, ça fatigue les autres. Là. Mais venez après avoir mangé, il n'y a pas de problème. On ne fait pas un sprint là, de qui pète les scores. On vient simplement s'arrêter et chacun fera comme il pense là-dessus. Ça marche? Si le Seigneur vous met à cœur de ne pas venir, ne venez pas par la foi. Venez pas. Par la foi, ne venez pas si Dieu vous dit de ne pas venir. Si Dieu vous dit de venir, venez. Si vous ne savez pas, venez, vous allez voir si vous êtes venir ou non. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et Dieu va nous bénir. Et ça commence demain matin, 5 heures. C'est moi qui vous les porte, c'est ça? Pasteur Claude va être là aussi? Fait que, en tout cas, ça va être spécial. On va se raconter dimanche prochain ce qui s'est passé. Puis, ça fait que... Stay in tune! Ah oui, excusez. Ça, c'est le papier, c'est le machin, là, le tableau de papier, là. C'est pour écrire ce qui se passe en chemin, des idées qui viennent, des paroles qu'on peut avoir, des choses que le Seigneur peut nous montrer. On va mettre ça à mesure, puis on va revisiter ces choses-là après. Durant toute la semaine, si quelqu'un a vraiment à cœur un verset ou quelque chose est clair, on va le marquer là-dessus. OK? Et puis, ça, on va regarder ce qui va arriver. Peut-être que ça va nous dire, « Maintenant, les gars, je vous donne un autre pays évangélisé. » Ah non, encore? Et là, ça va être un avion blanc. OK, un avion blanc. Mais bref, c'est pas ce qui va arriver. Mais il va juste refaire un focus pour que notre joie continue à déborder. Les gens vont nous reconnaître toujours à l'extérieur, que ce soit la fête qu'on va faire dans le village, partout. Les gens, le Seigneur l'a dit, ils vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et ça, c'est son amour. Et c'est faut l'entendre à quel point il nous aime. Et quand il nous aime, nous autres, ben, c'est assez gênant de dire à mon frère, ben, lui, il ne t'aime pas autant que moi. Ça va? Ça va? Ça brise tout ça. Ça peut faire des guérisons absolument incroyables. Fait que vous êtes tous les bienvenus. Je finis juste avec la confession de foi qui dit quelque chose d'intéressant ici sur les bonnes œuvres. Et tout ça, c'est en vue de continuer à marcher dans ce que préparé Éphésiens 2:10. C'est important ce qu'on fait. Je sais, en bon évangélique, on prêche la grâce pure, ultra pure de Dieu. Et on a quasiment peur de faire des œuvres. Mais il ne faudrait pas être niaiseux à ce point-là quand même. Tu comprends? Il ne faut pas oublier que nos œuvres que Dieu nous amène à faire sont extrêmement précieuses. Je vous lis finalement ce que l'article nous dit ici. Il nous rappelle d'abord qu'il n'y a aucune œuvre qu'on peut faire qui peut compenser ou réparer ou racheter nos vies. Là. Il insiste, un bon réformé, on insiste énormément là-dessus. N'oubliez pas, on est des maniaques sur la doctrine que Dieu justifie le pécheur, l'impie, Romains chapitre 5. Okay? Mais un coup qu'il l'a justifié, c'est pas se le rappeler à tous les jours qu'on est des impies que Dieu justifie. Il dit, OK, on y a cru maintenant, on passe à d'autres choses. Le Saint dit, oui, pensez aux œuvres maintenant. Oh, tu nous donnes une puissance pour les faire meilleures que les autres? Pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Je dis, si on est supposé faire quelque chose avec toi, Dieu, quand même. Non, vous allez faire comme les autres, mais vos œuvres, je les accepte. Sur quelle base? Néanmoins, les croyants étant acceptés par Christ, leurs œuvres, leurs bonnes œuvres, sont elles aussi acceptées en lui. C'est pas capotant, ça? Vous n'avez pas compris, hein? C'est pas grave. Non, peut-être un moment donné, ça va arriver, c'est pas grave. C'est vrai. Cela a lieu non parce qu'elles sont en cette vie entièrement innocentes et irréprochables devant Dieu, mais parce qu'il a plu à Dieu qu'il les considère en son Fils de les accepter, de les récompenser de ce qui est encore, de ce qui est sincère bien, que ce soit accompagné de nombreuses faiblesses et imperfections. Écoute, on ne veut pas passer à côté de ça. Hein. Ce que vous faites, ça compte. Ça compte. Je sais qu'on insiste tellement sur un salut gratuit par les œuvres, puis il n'y a pas d'œuvres là-dedans. C'est pas nos œuvres. OK, on l'a compris. Maintenant, un coup justifié, à quoi ça sert d'aller de l'avant maintenant? Dieu dit, je les accepte parce que c'est toi qui les as faites. Mais pourquoi? Sont-ils meilleurs? Ils ne sont pas meilleurs. Non, tu n'es pas vu aller là-dessus? Ben oui. C'est que tu es en Christ. Et puisque tu es reçu en Christ, tes œuvres aussi sont reçues en lui. Et je vais les récompenser. Calvin, il ne faut quand même pas passer à côté. La plupart de nous, on a gâché nos vies ordinaires. Pas vrai? Tout le monde venait dans ce monde pour être un millionnaire. Ou un artiste. Ça, c'est les purs. Les millionnaires, c'est les sales. Mais peu importe. vous êtes une ou deux des catégories suivantes. Pas vrai? Personne n'est venu en disant, « Wow, moi, je viens au monde, je vais être un loser pauvre. » Moi, il travaillait fidèlement. Non, tout le monde voulait réussir sa vie. Et en vieillissant, les jeunes, vous allez voir, en vieillissant, tu ne réussis pas grand-chose. Mais dans le Seigneur, il peut faire d'un laveur de vaisselle un missionnaire qui s'en va finalement bouleverser un pays. Un laveur de vaisselle, un vidangeur, un homme d'affaires, un médecin. Il peut faire de nous autres des gens, n'importe quoi, par avec nous autres. Et juste des petites affaires de rien peuvent bouleverser le monde parce que c'est nous en lui qui les faisons. Mais si on ne discerne pas sa volonté, si on est en train de passer à côté parce qu'on est tellement préoccupé par toutes sortes de nos petites affaires à nous autres, on peut se faire voler le prix de la course. La course n'est pas finie. Il dit, veille à ce que personne ne te vole, ne te prend le prix de la course. Alors, on s'arrête pour dire, Seigneur, on court-tu dans le bon stade en ce moment? Le Seigneur dit, non, tu t'es trompé là, tu es chez les lanceurs de javelots. Puis là, on va juste se retourner à la bonne place, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est celui qui a recombattu selon les règles qui gagne. Pas celui qui combat, selon les règles. Seigneur, parle-nous, sonde-nous et vois si on marche sur le chemin de l'éternité. Fait que Seigneur, on veut mettre cette semaine à part, selon nos moyens, selon notre temps, selon ce que tu nous appelles à faire, car tu es assez puissant, tu es Dieu, Seigneur. Tu es assez puissant pour nous parler, à chacun de nous individuellement et collectivement, pour toi nous rassembler durant cette semaine. En tant qu'individu, parce que tu négliges pas, tu ne méprises pas du tout que tu nous as donné une personnalité propre. Mais en même temps, ce n'est pas au détriment de la communauté. Ça constitue aussi ton peuple, le peuple de ceux que tu t'es rachetés par ton précieux sang, Seigneur. Et on veut que tu nous parles. Montre-nous si on se trompe dans certaines places, si on a mal compris d'autres choses. Montre-nous des choses qui peuvent faire toute la différence. Et élève ton nom au milieu de nous. Parle-nous de toi après, Seigneur. Parle-nous de tout ce que tu nous as donné en Jésus-Christ, afin que notre joie, Seigneur Dieu, soit à son comble, comme tu l'as dit, et que notre coupe déborde, et que ce service qu'on te rend soit un service de reconnaissance, de joie, un culte qui serait tout à fait raisonnable, tu dis, normal, un effet secondaire normal. Et si tu dois nous parler, Seigneur, sur certaines choses qui te déplaisent dans nos vies, encore une fois, tu dis que ceux qui avouent et qui abandonnent leurs transgressions sont pardonnés à cause du sang de Christ. Ta communion est restaurée dans ces sphères de nos vies. Et ce qu'on essaie de trouver ailleurs qu'en toi, on le retrouve plus qu'abondamment en toi après. Et Seigneur Dieu, on peut aller annoncer maintenant la joie à un monde qui se perd, aller annoncer la vie à un monde qui meurt, et de manifester un amour authentique les uns pour les autres. Seigneur, bénis-nous, appelle-nous à ce jeûne et dirige-nous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, n'oubliez pas de lire le livre de Daniel si vous voulez avoir des informations. Jeûne total, jeûne partiel. Il y en a qui se plaisent juste jeûner leur viande ou d'autres, ça va être simplement jeûner la barre de chocolat traditionnelle ou le sac de chips. C'est que ça, c'est violent, mais on ne sait pas.